Et c'est le journal avec Frédéric Saïs. Bonjour Frédéric.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. Un week-end chargé pour les forces de l'ordre, défilé du 14 juillet et feux d'artifice à sécuriser, mais aussi crainte de nouveaux débordements après la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Demain soir, les autorités annoncent une mobilisation accrue. Facebook à l'amende, amende record aux États-Unis pour des manquements à la protection de la vie privée. 5 milliards de dollars à payer, mais visiblement, ça n'effraie pas les actionnaires. Nous irons à Los Angeles. Le web qui a aussi du bon, un tableau volé en France, retrouvé en Allemagne 46 ans après sa disparition sur un site de mise aux enchères. Dans 10 minutes, le journal des sports, Roger Federer, plus si loin de la quarantaine, mais toujours imbattable à Wimbledon. Et puis à 8h20, Amélie Perrier, votre invité est un philosophe.
Oui, c'est Frédéric Worms. Ensemble, on va essayer de penser les grandes questions d'actualité qui se sont posées à nous. La fin de vie, le droit des femmes à disposer de leur corps en Irlande du Nord notamment, les migrants, l'éthique en politique, autant de sujets vertigineux. Frédéric Worms nous apportera ses lumières dans 20 minutes.
France Inter. Week-end de départ en vacances, mais pas de repos en vue pour les forces de l'ordre. Ce sont 48 heures chargées qui les attendent. Il faut sécuriser le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, protéger les badauds rassemblés pour les feux d'artifice dans toute la France et puis prévenir d'éventuels débordements après la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Demain soir, le dernier match de l'Algérie il y a deux jours avait donné lieu à des incidents. 13 personnes étaient d'ailleurs toujours en garde à vue hier soir et 3 seront jugées cet après-midi en comparution immédiate. Les autorités ont donc décidé de resserrer le maillage des forces de sécurité, en particulier dans la capitale. Emmanuel Leclerc.
Entre des manifestations de gilets jaunes annoncées ce week-end, les balles de pompiers ce soir, le feu d'artifice demain après un grand concert au pied de la Tour Eiffel, et donc les milliers de supporters de l'équipe d'Algérie qui pourraient se rassembler à nouveau en cas de victoire à partir de 23h dimanche, les mesures de sécurisation de certains quartiers ont été revues sérieusement à la hausse après une réunion de l'état-major de la préfecture de police hier soir. Ce sont des milliers de policiers et de gendarmes mobiles qui seront donc déployés à nouveau ce week-end dans la capitale, avec pour dimanche soir plusieurs zones interdites à la circulation, du filtrage et des fouilles de bagages dans les secteurs Champs de Mars et Champs-Élysées notamment. Les centaines d'agents déployés pour le grand concert et le feu d'artifice de la Tour Eiffel pourront ensuite glisser vers des quartiers plus sensibles si jamais certains groupes de supporters se transformaient en hooligans d'après-match, selon nos informations, dans le quartier Barbès, par exemple, ou sur les Champs-Élysées, pour tenter d'éviter les pillages. Enfin, les blocages d'avenues ou du périphérique par des voitures de supporters seront à nouveau vidéo-verbalisés.
Emmanuel Leclerc est noté que la ville de Nice offrira ce soir un feu d'artifice, le premier pour la fête nationale depuis l'attentat qui avait visé la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. François de Rugy va-t-il tenir? Le ministre de la Transition écologique à nouveau contraint de se défendre après les dernières révélations de Mediapart. Le site en ligne dévoile le montant de l'impôt payé pour l'année 2014 par François de Rugy, à l'époque député, un impôt égal à zéro. De son côté, le ministre dénonce un acharnement. Il explique cette absence d'impôt par les dons défiscalisés qu'il a versés à son parti politique d'alors, Europe Écologie Les Verts. Mediapart confirme dans son article qu'il n'y a pas eu de fraude et que tout cela est légal.
La suite du journal de Frédéric Saïs. Facebook va devoir régler une amende record aux États-Unis.
5 milliards de dollars. Le réseau social paye ses manquements dans la protection des données personnelles. La sanction est liée à l'affaire Cambridge Analytica qui a éclaté il y a un peu plus d'un an. Le groupe californien avait transmis des informations privées sur des millions d'utilisateurs sans leur accord. Alors 5 milliards de dollars, ça semble une somme, et pourtant ce n'est même pas 10% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. D'ailleurs, les investisseurs ont même semblé soulagés par cette sanction. À Los Angeles, Loïc Piala.
5 milliards de dollars, c'est beaucoup plus que le précédent record, une amende de 22 millions infligée à Google en 2012 par la Commission fédérale du commerce. Le New York Times y voit le signe d'une administration Trump lassée des excès des géants de la technologie. Mais pour un groupe qui a déclaré 55 milliards de dollars de revenus en 2018 et qui dispose d'énormes réserves de cash, ce montant ressemble à de l'argent de poche, regrette le sénateur démocrate du Connecticut, Richard Blumenthal. David Cicilline, un autre élu démocrate, parle lui d'un cadeau de Noël en avance qui ne poussera pas Facebook à réfléchir à sa responsabilité dans la protection des données des utilisateurs. La firme californienne avait de toute façon prévenu ses actionnaires dès le mois d'avril de l'éventualité d'une amende géante. Wall Street n'a donc pas sanctionné le réseau social. Au contraire, le titre Facebook a fini en hausse de 1,8% hier soir, à son plus haut depuis près d'un an. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
8h05 sur France Inter. L'Iran a la capacité de bombarder Israël avec force et férocité. Voici l'avertissement du chef du Hezbollah, mouvement chiite libanais, allié de Téhéran. Des déclarations qui illustrent la tension toujours grandissante dans le Golfe après plusieurs incidents ces derniers jours dans le détroit d'Ormuz. C'est par là que transite un tiers du pétrole brut mondial acheminé par voie maritime. La Grande-Bretagne a d'ailleurs décidé d'envoyer sur place un deuxième navire de guerre. Londres accuse les forces iraniennes d'avoir tenté de bloquer l'un de ses pétroliers. La semaine dernière, les Britanniques avaient de leur côté arraisonné un navire iranien au large de Gibraltar, territoire britannique sur la pointe sud de l'Espagne. On a appris cette nuit que les quatre membres d'équipage de ce pétrolier iranien ont été relâchés.
Un tableau volé maintenant, Frédéric Saïs, retrouvé 46 ans après.
Oui, il a fallu l'œil d'un collectionneur et le hasard d'une visite sur un site de mise aux enchères. L'œuvre vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. Elle date du 19e siècle et est signée du peintre Théodore Chassériau. La toile avait été dérobée en 1973 dans une église de Marcoussis dans l'Essonne, près de Paris, et elle a donc été retrouvée 46 ans après en Allemagne. Léa Dubo.
C'est une nouvelle inespérée. 46 ans, jour pour jour, après le vol d'un tableau d'une grande valeur, la mairie de Marcoussis reçoit un appel. Un collectionneur avisé vient de repérer le tableau volé sur un site de vente aux enchères en Allemagne. Le maire Olivier Thomas le reconnaît aussitôt.
Parce que je l'avais connu enfant, dans l'église, que je recherche depuis longtemps. J'étais certain à 100% que c'était ce tableau. Et d'ailleurs, le collectionneur aussi, donc ça n'a pas fait l'ombre d'un doute. C'est le vrai tableau de Chassériau.
Après l'euphorie de la nouvelle, la ville découvre l'histoire derrière ce tableau.
Le détenteur, c'était un brave homme qui n'y est absolument pour rien, qui a hérité de ce tableau de ses parents. Il le trouvait pas beau, donc il l'a mis dans le grenier. Ses parents eux-mêmes l'avaient acheté aux puces de Paris en 1974, sans savoir que c'était un tableau de cette grande valeur, quoi.
Lundi, le maire a récupéré le tableau en Allemagne et il est fier d'avoir contribué à ramener une partie du patrimoine local.
Ça fait partie de notre histoire parce que c'est un tableau qui avait été offert par la famille Moronet-Laton à la paroisse. C'est un tableau d'une très grande valeur, plusieurs centaines de milliers d'euros. Évidemment, c'est quelque chose de très émouvant pour nous, les anciens qui connaissaient bien ce tableau aussi. C'est le hasard, mais c'est une belle histoire.
Après sa restauration, le tableau sera présenté aux habitants. La ville compte réaliser une copie pour l'accrocher dans l'église et le maire espère pouvoir confier l'œuvre originale au musée d'Orsay ou au Louvre.
Le groupe Nice Matin va changer de main. Les salariés du journal ont accepté l'offre de l'homme d'affaires franco-libanais Iskandar Safa. Ce dernier est déjà propriétaire de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. C'est une défaite pour Xavier Niel, fondateur de Free et actionnaire du journal Le Monde, qui avait lui aussi déposé une offre. Vous connaissez l'expression « passer pour une plante verte », pas forcément très flatteur, et cela dit bien le rôle longtemps assigné aux végétaux. Mais cela change avec le réchauffement climatique. Chacun se rend compte de leur importance et surtout, la recherche a démontré leur capacité de communication et de mémoire. Les arbres, ces amis méconnus, à qui la Fondation Cartier consacre sa dernière exposition. C'est un reportage de Sophie Becherel.
Le fait même qu'il y ait une exposition, ça veut dire que le regard a changé. Vous n'auriez pas imaginé un truc comme ça il y a 25 ans.
Le botaniste Francis Allais a raison. Avec Aristote, les arbres étaient au bas de l'échelle, des êtres végétatifs. Avec les récentes découvertes, les voilà au centre du monde. Ce renversement de perspective est le fil conducteur de l'exposition, explique l'anthropologue Bruce Albert.
C'est un peu cette rotation de perspective qui place les arbres au centre du vivant qui nous a guidés depuis le départ. Donc on s'est dit, on ne va pas faire une exposition scientifique, bien entendu, mais on va essayer de faire écho, de tirer les fils un peu dans le champ culturel et artistique de cette révolution culturelle autour des plantes.
C'est ainsi que les œuvres exposées émanent d'artistes pour qui l'arbre est central. Dessins naïfs des Amazoniens, photographies, tableaux mêlant la luxuriance et la modernité urbaine du Brésilien Luiz Zerbini. On est questionné comme devant les toiles de Fabrice Hibert. Ce peintre a semé 300 000 graines d'arbres en 30 ans. Il nous invite à le suivre dans sa réflexion.
Par exemple, il y en a un ici, l'arbre c'est moi. C'est un autoportrait. Donc l'arbre, il devient rouge comme du sang. Après, il y a un arbre dentelle. On pourrait imaginer qu'il y a des lacunes dans notre pensée qui font qu'il y ait des trous à l'intérieur de l'arbre. Vous voyez ? À chaque question mentale que je me pose, il y a un arbre.
On se régalera aussi du film de Raymond Depardon. Il y donne la parole à ceux que les arbres émeuvent, mais qui parfois se disent fatigués de vivre à leur côté.
Exposition jusqu'au 19 novembre prochain à la Fondation Cartier à Paris, 8h09. Sur France Inter, je vous laisse en compagnie d'Amélie Perrier.
C'était le journal de Frédéric Saïs. Merci à vous Frédéric. Et on passe le relais au journal des sports. Bonjour Adrien Bossard.
Bonjour Amélie.
Les baroudeurs du Tour de France poussent donc un coup de gueule.
Ils regrettent le manque de panache sur cette édition. Ils disent être trop peu nombreux dans les échappées pour qu'elles aillent au bout. À la fin, ça donne des échappées vaines, perdues d'avance. À deux, comme hier par exemple, difficile de résister au retour du peloton. Plus personne ne tente, peste Johan Ofredo, l'un des coureurs échappés hier.
Qu'est-ce qui est absurde? Alors à ce moment-là, on reste dans le peloton et on fait rien. Et moi, j'ai pas les capacités d'un Julien Alaphilippe, j'ai pas les capacités d'un Thibaut Pinot ou d'un Romain Bardet. J'ai vu ce rêve-là de me dire qu'on allait nous laisser 30 minutes et que voilà, on allait gagner comme ça. Et putain, imagine, t'y vas pas et puis y a vraiment quelqu'un qui arrive avec 30 minutes d'avance, tu vois, et c'est pas toi, tu vois. Ça m'a trotté dans la tête pendant les 9 km de fictif et je me suis dit, ouais, putain, ouais, ça, si ça m'arrive, je suis dégoûté, quoi. Et du coup, voilà, je suis allé devant. On essayera, hein, qui tente rien à rien.
Une étape marquée hier par la victoire au sprint du Néerlandais Dylan Groenewegen.
Alors peut-être qu'aujourd'hui, Adrien, ils seront plus nombreux, hein, dans l'échappée.
Le parcours s'y prête, en tout cas. 7 cols au programme de 2e et 3e catégorie pour cette 8e étape entre Mâcon et Saint-Étienne, étape de 200 km. Il se murmure dans le peloton que Julien Alaphilippe pourrait reprendre le maillot jaune aujourd'hui. Lui qui n'a que 6 secondes de retard sur le leader, l'Italien Giulio Ciccone. La lutte pour le maillot jaune, il y en a un qui regarde ça de loin maintenant. Romain Bardet, très loin au classement, 26e à 2 minutes 57 de l'Italien. Deux jours après sa défaillance au sommet de la planche de Bellefille, il admet avoir un peu honte.
À chaud, les mots sont toujours forts, mais bien sûr que je suis revanchard et très mécontent de moi d'avoir travaillé si dur et de premier rendez-vous, d'avoir l'impression d'avoir été spectateur et d'avoir manqué ça. Ça change beaucoup de choses parce que voilà, je ne suis pas venu sur le tour pour montrer ce visage-là. Les gens ne me répondent pas comme je voulais sur la première arrivée au sommet. C'est pas un bon gage pour moi, donc j'espère vite effacer ça.
Peut-être pour les Pyrénées, car on l'imagine aujourd'hui, pour cette 8e étape, Romain Bardet restera très très calme.
Une 8e étape que l'on vous fait découvrir autrement sur France Inter.
Comme tous les jours, notre journaliste non-voyante Laetitia Bernard roule en tandem sur les routes de la Grande Boucle et vous fait vivre les étapes à sa manière. Ce matin, c'est parti avec la pilote Martina Zagar et Jean-André Giannichini pour les moyens techniques.
Il reste les casques.
Oui, on est opérationnel.
Allez, on s'équipe, mais en fait, on va pas aller très loin pour commencer la matinée. On est à Mâcon, tout près de la rivière, de la Saône. Et justement, ce matin, on s'est dit qu'on allait changer de sport parce qu'en fait, il y a une énorme dynamique autour de l'aviron à Mâcon. Alors, on va aller faire un tour au club des régates mâconnaises, c'est juste à côté. Et c'est toujours Martina, bien sûr, qui pilote le tandem. On y va ?
On y va, chef ! À vos ordres !
Bonjour, Bernard Rey.
Bonjour, monsieur le président.
Vous vous appelez Bernard Rey et vous êtes...
Je suis le président des régates mâconnaises depuis 1999.
Vous me disiez la société des régates mâconnaises, elle date de...
1873. Nos rameurs ont cet avantage, c'est que ici il y a le bassin naturel avec la rivière. Ils peuvent faire tranquillement 20 km, 10 en montant, 10 en descendant.
Nous, par exemple, on n'a jamais essayé l'aviron. Vous nous diriez quoi pour qu'on se décide un jour à essayer, qu'on se dise tiens, ça se tente?
L'aviron, ça se pratique de 7 à 77 ans, voire plus si affinité. Mais je vous conseille de le pratiquer.
Merci, monsieur le président. Ok, c'est parti. 3, 2, 1. Petite mise en jambe. Ouais. Avec la petite côte. Ah, c'est juste incroyable.
Pourquoi ?
Parce que là, on a quitté la nationale et on est vraiment sur des routes de village qui sont étroites et on roule entre les vignes. Voilà, là, on passe à côté de Puy-Fuissé.
Ah, le Puy, ah, j'adore. Ouais. Tu connais ou pas ?
Oui.
C'est bon, hein ?
Oui. À consommer avec modération. Attends, pose le pied.
Pose technique.
On a déraillé.
Hop.
Ok, c'est bon, bouge pas.
Ok. Ok. Je te tiens le vélo.
Hein ?
Non, déjà, c'est bon. T'as réussi ?
Oui.
C'est bon.
Je me suis tellement habituée maintenant à toi derrière.
Ouais.
Que je sens plus ton poids.
Ah, je peux manger plus de croissants au petit-déj alors.
Oui. Allez, la dernière côte. Appuie bien. Allez, encore un peu. Et ça va, ça y est. C'est fini.
Et voilà, une de plus au compteur. Bon, c'est pas très glamour, mais moi je dégouline, la douche, elle va faire du bien.
Il faut y aller, il faut se rafraîchir.
Bon, à demain.
À demain, Laetitia.
À demain à 8h10, tandem sur France Inter.
Le gazon est décidément son jardin.
Personne ne fait mieux à Wimbledon. 12e finale londonienne pour Roger Federer. Le Suisse, qualifié après sa victoire en 4-7 contre Rafael Nadal hier soir, il affrontera demain Novak Djokovic, tombeur de Roberto Bautista Agut, est en train de s'offrir un 9e sacre à Wimbledon, le 21e en Grand Chelem.
Le match il était très serré jusqu'à la fin. On a tout eu niveau drame. Ça fait forcément encore plus plaisir de gagner à la fin que de gagner sur un jeu de service vite fait, sur une faute bête de sa part. Et aussi les spectateurs, ils étaient à fond dedans. La pression, elle est montée. C'est pas facile, mais en tout cas, je trouve que j'ai vraiment fait un très bon match. Je peux vraiment être très satisfait d'avoir réussi à aller à ce niveau-là aujourd'hui. Ça me fait beaucoup de plaisir.
Des records, toujours des records chez le Suisse. Et que dire de Serena Williams, elle aussi 37 ans, l'américaine a l'occasion d'égaler un vieux record de 40 ans, à savoir remporter un 24e Grand Chelem final aujourd'hui face à la Romaine Simona Halep à 15h.
Le journal des sports, Adrien Bossard, merci à vous, un coup d'œil au ciel.
La météo avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France, à retrouver sur velux.fr.
C'est avec Jean-Michel Golinski.
Un ciel plutôt variable aujourd'hui du nord de la Seine en allant vers le Val de Saône et la frontière allemande avec par moments une ondée sur les Ardennes, les Vosges et le Jura dans des températures légèrement inférieures à celles d'hier en raison du vent de secteur nord sensible. Il est prévu 22 au cœur de l'après-midi à Lille et 24 en moyenne sur la Champagne, la Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace. Sur le reste du pays, une fois les grisailles des premières heures dissipées, elles sont plus denses et parfois humides au sud de l'Aquitaine. Ce sera quasiment du plein soleil et des températures estivales pratiquement identiques à celles d'hier, de l'ordre de 24 à 29 degrés de la Bretagne aux Charentes, 28 à 30 du Val-de-Loire au Massif central et en Rhône-Alpes, 33 près de la Garonne et 32 à 35 autour de la Méditerranée où le Mistral sera sensible en basse et moyenne vallée du Rhône, ainsi que les rafales d'ouest sur le sud de la Corse.